Alors, pourquoi la thérapie génique pour OP1? D'abord parce que c'est une maladie ophtalmo et que l'œil est l'organe de prédilection pour la thérapie génique, dans le sens où c'est un organe qui est accessible, qui est translucide, où on voit ce qu'on fait à l'intérieur de l'œil, et puis il a un volume qui est, on va dire, fermé, c'est pas exactement fermé, mais quand même qui est clos, un petit volume de quelques millilitres, et qui est donc facilement accessible et facilement manipulable. Okay? Donc à la différence de tous les autres organes qu'on a dans le corps, l'œil, on peut voir à l'intérieur, on peut intervenir d'une manière simple, et on peut injecter des virus, en sachant que ces virus thérapeutiques ne vont pas être dilués dans l'ensemble de l'organisme. D'accord? Donc c'est un moyen de pouvoir apporter une solution aux maladies génétiques de la rétine et du nerf optique, qui a été extrêmement favorisée, développée par plein d'associations, et en particulier par l'AFM, avec des grands programmes qui ont été initiés dans les années 2005-2010, d'accord, autour de José Saël, Christian Hamel, etc., etc. Et donc nous, on s'est dit que par rapport à OP1, il fallait qu'on se positionne aussi pour apporter une éventualité de solution de thérapie génique pour OP1. Donc c'était un vœu cher, évidemment, à Christian, qui avec moi avait découvert le gène. On avait, vous savez, on a une souris OP1 avec une mutation qui reproduit la mutation la plus fréquemment trouvée chez les patients. On avait réalisé des manips à Montpellier sur cette souris en exprimant un des 8 variants OP1 dans l'œil de la souris mutée. Bon, les résultats étaient assez moyens et en tout cas ne permettaient pas de statuer sur on passe en clinique avec cette démarche de thérapie génique qu'on avait développée à Montpellier, donc en exprimant juste un isoforme, des 8 isoformes d'OP1, puisque OP1 code en fait pour 8 protéines différentes. Okay, donc là, on ne pouvait exprimer qu'une protéine. Et donc, on n'avait qu'une réponse tout à fait partielle par rapport au déficit qu'il peut y avoir dans le nerf optique des patients. Donc, déjà à Montpellier, moi j'avais réfléchi à une solution thérapeutique qui était un peu plus originale, un peu plus sophistiquée, sûrement bien plus difficile à mettre en œuvre. On n'a pas eu le temps de la développer à Montpellier. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu le souhait de pouvoir la développer ici à Angers. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails moléculaires, hein, mais c'est une solution qui permet de contourner toutes les difficultés qui sont liées à la spécificité du gène et des protéines OP1. D'accord? Il y a 8 protéines. Bon, il faut trouver une solution pour corriger les 8 protéines. On ne peut pas surexprimer OP1 parce que c'est toxique pour la mitochondrie. Donc on a trouvé une solution qui ne surexprime pas la protéine. On a des mutations qui sont à la fois des mutations perte de fonction, et puis des mutations qui sont entre guillemets toxiques, qui vont entraîner un effet toxique sur les protéines sauvages. Vous savez que c'est une maladie dominante, donc il y a 50% de la protéine qui est normale, 50% de la protéine qui est soit mutée, soit absente. Donc il fallait une solution thérapeutique aussi qui puisse répondre à ces deux situations, soit ce qu'on qualifie d'haploinsuffisance, quand on a 50% de la protéine et qu'il en manque 50%, soit on a 50% de la protéine normale, plus 50% de la protéine mutée. Donc nous, on a aussi réfléchi dans ce sens-là à trouver une solution qui puisse réparer les deux. Une solution thérapeutique pour finalement les deux grandes formes de la maladie, hein, liées à l'haploinsuffisance, donc 50% de la protéine, ou un effet dominant négatif parce qu'il y a une mutation dans la protéine qui va engendrer un effet négatif sur la protéine sauvage. Bon, donc on a mis ça sur le papier, on a trouvé une solution théorique pour répondre à ce défi-là. Et donc il fallait la mettre en œuvre. C'est ce qu'on a fait il y a depuis maintenant 4 ans. C'est un processus qui a été très long parce que on sentit du G1 dont on ne connaît pas le fonctionnement. Hein, je vous rappelle qu'un gène, c'est des exons qui vont coder pour les protéines, et puis il y a 95% de la séquence du gène qui sont des introns, et dans ces introns, encore actuellement, on ne sait pas très bien comment ça marche, on ne sait pas très bien comment on raboute les exons, etc. etc. Bon, il y a encore beaucoup d'inconnus là-dedans. Et de ce fait-là...
Je suis très important, mais je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort?
D'accord, oui. je vais essayer de faire de mon mieux pour parler encore plus fort. On a défini, on va dire, théoriquement, une stratégie de thérapie génique pour OP1 et on a mis 4 ans pour la mettre en œuvre au niveau cellulaire. Et donc, depuis l'été passé, la dernière Assemblée Générale, vous avez eu un exposé de Yannick Le Dantec qui vous a présenté ses résultats, qui étaient le fruit de 4 ans de travail sur cette démarche de thérapie génique un peu particulière. D'accord ? Donc ça marche sur les fibroblastes de patients. Donc on est capable de corriger les mutations, on va dire, de la protéine et restaurer le niveau normal de la protéine sans le surexprimer. On est aussi capable, avec cette solution thérapeutique, de restaurer la fonction de la protéine dans le sens où on a un réseau mitochondrial qui est de nouveau fusionné normalement, alors que lorsqu'il y a des mutations dans OP1, il est fissionné. Les mitochondries sont beaucoup plus petites. Nous, on arrive à les refusionner, à leur redonner la structure normale. Donc, à ce niveau-là, on avait une première preuve de principe que, finalement, la solution thérapeutique qu'on avait développée pouvait être applicable sur des échantillons cellulaires qu'on avait de patients. Okay. Donc, maintenant, il fallait faire deux choses. C'est même plus que deux choses. C'est un, s'assurer que ça marche aussi dans des neurones, d'accord, qui sont beaucoup plus près des cellules qui sont atteintes chez les patients avec une atrophie optique dominante. Okay. Et puis, il faut s'assurer que ça marche aussi chez la souris. Et puis, il faut s'assurer que cette solution thérapeutique soit sans conséquences néfastes sur des animaux qui sont le plus près de l'être humain, donc c'est les singes, et en particulier les singes macaques. Voilà. Donc ça, il y a un enjeu derrière ça, important, c'est de pouvoir environner ce projet, être sûr qu'il n'y a pas de risque pour le patient. Ça, c'est le point de la médecine clé qui s'applique sur toute solution thérapeutique, c'est de ne pas nuire. Voilà. Donc, entre-temps, la solution thérapeutique qu'on a mise au point au sein du laboratoire, on a fait une déclaration d'invention qui a été accompagnée par la société d'accélération de transfert technologique, donc c'est la société qui est mandatée par l'université pour poser des brevets et pour nous accompagner dans la valorisation de nos travaux. Donc on a fait cette déclaration d'invention, on l'a transmise à cette société qui l'a étudiée, qui l'a reconnue comme étant entre guillemets valable, valorisable, et donc on est en train d'écrire un brevet pour protéger cette solution thérapeutique. Voilà. En même temps, on a été contacté par la société GeneSight, qui actuellement est une start-up qui est montée par José Sahel, par Bernard Gilly à Paris, qui a développé une solution de thérapie génique pour la neuropathie optique héréditaire de Leber. Donc c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, mis au point il y a une dizaine d'années. Depuis 10 ans, ils se sont lancés dans les essais cliniques, phase 1, phase 2. Ils ont fait 3 phases 3. Globalement, c'était un investissement pour eux de 50 millions d'euros pour montrer que leur solution de thérapie génique était applicable à la neuropathie optique héréditaire de Leber. Logiquement, à partir de janvier 2023, ils pourront l'appliquer chez les patients avec la mutation 11778 du génome mitochondrial, responsable de neuropathie optique héréditaire de Leber. Okay. Donc ce sera un médicament qui sera administré pas simplement à Paris, mais dans certains centres en France, et GeneSight est venu nous demander d'administrer ce médicament ici à Angers, chose que Christophe Verny et Philippe Goyer ont accepté. Bon, donc il y a une belle histoire pour les patients et neuropathie optique héréditaire de Leber en termes de thérapie avec accès à un médicament remboursé par la Sécurité sociale à partir normalement de janvier 2023. Donc ce que voulait faire GeneSight, c'est développer une approche de thérapie génique aussi, enfin, en tout cas de mettre en œuvre une approche de thérapie génique pour l'atrophie optique dominante et liée à des mutations dans OPA1. Donc GeneSight nous a contactés à partir du mois de septembre de l'année passée et nous a signifié leur intérêt pour prendre une licence sur le brevet qu'on a déposé, qu'on est en train de déposer pour OPA1. Donc eux vont nous accompagner finalement dans le passage préclinique, clinique, pour une forme de thérapie génique OPA1. Parce qu'ils ont cette expérience, que nous on l'a pas, que nous on ne se sentait pas de monter une start-up ici à Angers, qui serait éventuellement concurrentielle à GeneSight, etc., etc. Donc on a préféré finalement d'utiliser les compétences d'une boîte qui a déjà développé une forme de thérapie génique pour une forme de neuropathie optique héréditaire, donc utiliser leurs compétences pour nous accompagner dans le développement et dans les premières étapes d'essais précliniques sur les patients OP1 avec la solution de thérapie génique qu'on a entre nos mains actuellement. Donc, les étapes à venir sont les suivantes. Pour nous, il y a deux choses qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement, avec bien évidemment le soutien financier de GeneSight. C'est un, finaliser le travail sur les cellules, montrer que ça marche sur des cellules différenciées en neurones avec des mutations OP1. Et ça nous permettra de montrer que la solution thérapeutique, elle est efficace sur la mitochondrie et elle est sans effet secondaire sur le restant d'expression du génome. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est une sécurité. C'est qu'on cible un mécanisme qui va être fonctionnel sur OP1, mais qui n'aura pas d'effet, comme on dit en français, en anglais, off-target, en dehors de la cible que l'on veut, hein, pour être sûr qu'on ne touche pas à d'autres gènes que simplement OP1. Voilà. Donc ça, c'est un point évidemment clé qui est en train d'être écrit sur papier pour être financé par le GeneSight et qu'on fera en collaboration avec Patrick Wyman en Angleterre, parce qu'il a des IPS, donc des cellules pluripotentes avec des mutations OP1 qu'il peut différencier en neurones, chose que nous on n'a pas ici au laboratoire. Donc encore une fois, on a choisi la solution d'efficacité, d'aller directement travailler avec des gens qui ont ces modèles biologiques, plutôt que de prendre le temps de le développer dans notre laboratoire, en sachant qu'on n'avait pas cette expertise non plus de manipulation des IPS, pour l'instant, en local, au laboratoire. Donc ça, c'est un point important. On travaille, donc on est en discussion avec GeneSight, avec Patrick Wyman pour développer ou finaliser les travaux au niveau cellulaire. En parallèle, on a eu un contrat de la Fondation pour la recherche médicale triangulaire entre mon ancien laboratoire à Montpellier, un laboratoire à Paris-Saclay et puis notre laboratoire pour travailler sur la souris OP1. Et pour montrer que la solution de thérapie génique qu'on a développée actuellement pour des cellules humaines, on peut la mettre en fonction chez la souris, en œuvre chez la souris, et évaluer le bénéfice thérapeutique à la fois pour la vision, chose qu'on fera ici à Angers, et pour l'audition, chose qu'on fera à Montpellier, dans l'équipe de Jing Wang, qui était ma voisine lorsque j'étais à Montpellier. Donc ça, c'est une autre preuve de principe qui est évidemment importante, parce que ça ne concerne pas que la vision, c'est aussi l'audition. C'est montrer que le système qu'on a développé, eh bien, il s'applique in vivo sur un modèle de la maladie atrophie optique dominante syndromique, puisque la souris est l'un des problèmes d'audition. Et ça sera, j'oserais dire, avec la réalisation de ces manip-là, ça sera l'achèvement de la preuve de concept préclinique pour la thérapie génique OP1. Après, tout se passera en clinique. C'est-à-dire qu'après, il y aura un relais avec valider le vecteur thérapeutique chez le macaque pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Okay. Et puis ensuite, ça sera phase 1, phase 2, phase 3, avec le recrutement des patients. Donc on est déjà en train de se poser des questions par rapport à quel type de patients seront, entre guillemets, traités en premier. Et il est clair que pour nous, c'est les patients syndromiques, avec une évolution beaucoup plus rapide de la maladie que les patients non syndromiques qui seront sélectionnés. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des endpoints, on a besoin d'avoir des critères d'évaluation de la thérapie le plus rapidement possible. Et donc, bien évidemment, on va choisir des gens qui ont une évolution de la maladie la plus, entre guillemets, rapide, sachant que c'est quand même beaucoup moins rapide que la neuropathie optique héréditaire de Leber, où là, on perd la vision en quelques semaines ou en quelques mois. Voilà. Donc ça, c'est, j'oserais dire, l'état actuel de l'histoire thérapie génique au P1. Je pense que c'est une belle histoire parce que finalement, on a identifié le gène, on en est à une preuve de principe préclinique que ça peut fonctionner. Je ne dis pas que ça fonctionne, mais ça peut fonctionner. D'accord ? On a encore quelques travaux pour valider ça au niveau cellulaire, au niveau de l'animal, et puis après, on sera chez le patient. Donc, dans la perspective de GeneSight, qui est devenu un élément financeur de ce projet-là et qui veut assumer le développement clinique de cette solution de thérapie génique, le projet est grosso modo sur 5 ans pour arriver au bout de la phase 1. C'est leur projection à eux, c'est pas la nôtre. Nous, on n'a pas ces compétences-là et on connaît moins bien la réglementation que eux ne peuvent connaître parce qu'ils ont déjà mené un projet de thérapie génique pour une autre forme de neuropathie optique héréditaire. Donc on leur fait confiance, c'est des partenaires, et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer rapidement vers une thérapie qui soit transplantable chez les patients. Voilà. C'est là où on en est actuellement. Évidemment, je prendrai des questions avec beaucoup de plaisir, et puis je pense que chaque année, il faudra qu'on se revoie pour que je vous dise comment cette histoire évolue. C'est évidemment pas des choses très simples à mettre en œuvre parce que administrativement, financièrement, quand on travaille avec des partenaires étrangers, une boîte privée, maintenant en plus pour nous, l'université et le CNRS, etc., etc. La réglementation qui s'applique sur ces projets est très complexe, l'administration est très complexe. Le côté financier est très complexe aussi parce que c'est pas juste de l'argent pour payer quelqu'un, de l'argent pour payer des consommables, c'est aussi l'argent que demandent nos instituts pour récupérer leur investissement dans notre recherche, etc. etc. Donc c'est relativement complexe à mettre en œuvre, mais logiquement on pense que en septembre le travail avec GeneSight va pouvoir être mis en œuvre, tous les aspects administratifs seront réglés. On pourra donc, dans, j'oserais dire, fin septembre 2023, avoir les résultats au niveau cellulaire. Pour la souris, ça sera évidemment beaucoup plus long, mais ce n'est pas nécessairement pris dans le contrat avec GeneSight. Par contre, la solution thérapeutique, eux, ils sont en train de la produire par une boîte qui fait du vecteur thérapeutique Good Laboratory Practice, donc quelque chose qui est injectable chez l'humain. Qui veulent tester chez le macaque, ça c'est quelque chose qu'ils prennent en charge eux, nous on n'intervient pas là-dedans. Et puis une fois que ça sera achevé, on pourra penser à passer, si tous les résultats et tous les signaux sont en vert, on pourra penser passer au premier essai clinique. Voilà. Mais c'est des processus qui ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait, bien évidemment. Le temps de la recherche et de l'administration, peut-être plus encore l'administration que de la recherche, n'est pas le temps du patient. Mais bon, voilà, ça avance. Et en tout cas, on met beaucoup d'énergie et on essaye de regrouper autour de ce projet une synergie à la fois avec les hospitaliers, les chercheurs et puis la boîte privée, parce que s'il y a des enjeux financiers, alors évidemment, toujours, on va se dire, il y a un capitalisme derrière ces choses-là. Mais pour arriver à traiter les patients, GeneSight, une patient neuropathie optique héréditaire, a investi 50 millions d'euros. Donc c'est évident qu'ils veulent récupérer 50 millions d'euros sur le traitement de leurs patients. Voilà, c'est du capitalisme bête et méchant. Mais sans ça, la boîte ne tiendrait pas et donc on ne pourrait pas avancer. Voilà. C'est la logique du marché, entre guillemets, de la finance.
Merci Guy.
Merci. Excellent.